Enfant, quand j'allais dans la maison de mes grands-parents, j'étais fasciné par une partie de leur bibliothèque. Il s'agissait d'une collection que peut-être certains d'entre vous connaissent, les contes et légendes. Et il y avait des contes et légendes d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, de Russie, de Chine. Et quand je lisais ces livres, j'étais particulièrement attentif aux récits que chaque tradition culturelle faisait de la création du monde. Et dans ces contes et légendes, bien souvent, c'était la reproduction du visible à travers des divinités masculines ou féminines, divinités desquelles venait notre monde. Lorsqu'on voit la vision de la création du monde selon la Bible, c'est tout à fait autre chose, tout à fait autre chose, tout à fait différent. Premièrement, au début, il y a ce qu'on dit en hébreu le tohu-bohu, le chaos. Au début, il y a l'informe. Et Dieu qui n'est pas sexué, Dieu met de l'ordre par sa parole. Dieu distingue. Distingue les eaux d'en bas des eaux d'en dessous, distingue les différentes races d'animaux, distingue les luminaires. Les luminaires sont eux-mêmes créés, alors que dans beaucoup d'explications de la création du monde, ce sont les luminaires eux-mêmes, soleil et lune, qui ont créé tout. Et on voit bien que cette manière biblique d'expliquer la création du monde est vraiment une manière inspirée. C'est tout à fait autre chose, d'abord parce que c'est un Dieu unique et il faut une vraie révélation pour accueillir un Dieu unique, alors que dans nombre de traditions culturelles, eh bien, c'était une forme de polythéisme qui s'installait. Je trouve intéressant dans le récit de la création du monde selon la Genèse de voir que c'est la parole qui est au centre, la parole de Dieu qui permet une distinction. Et dans le judaïsme, il y a un grand attachement à cette distinction. Les juifs ultra-orthodoxes, on peut dire, sont très attachés, par exemple, à ne pas mélanger le carné et le lacté. Et ils ont des frigos pour tout ce qui est le lait et des frigos pour tout ce qui est la viande, parce qu'il ne faut pas mélanger ce que Dieu a distingué. De même, certains disent qu'il ne faut pas mélanger les couleurs, puisque Dieu, dans l'arc-en-ciel, les a distingués. C'est intéressant de voir qu'au fond, le Seigneur, à travers sa parole, rend différent, rend autre. Et évidemment, dans la création de l'homme et de la femme, on a un exemple très singulier de cette séparation, de cette distinction. À eux seuls, eh bien, ils ne représentent pas la communion qui est en Dieu. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est la première fois où dans ce récit de la Genèse, vous savez qu'il y a deux récits, dans ce récit de la Genèse, c'est la première fois où on entend l'auteur sacré dire « il n'est pas bon que », à chaque fois on entendait « et il vit que cela était bon ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul, créons-lui une aide qui lui soit semblable. De quoi l'homme a besoin d'être aidé? C'est intéressant. Il n'est pas dit que la femme ait besoin d'être aidée. Il est dit que l'homme a besoin d'être aidé. Et il a besoin d'être aidé pour sortir de soi-même, sortir de lui-même. Puisque l'homme, vous le savez, dans le récit biblique, l'homme lui-même a été seul, seul avec Dieu, mais seul face au seul, un face au un, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut lui créer une aide qui lui soit semblable, qui l'emmène hors de soi-même, une aide qui vienne puiser dans son cœur, qui l'aide à manifester les émotions qui sont dans son cœur. Et ce n'est pas pour rien que le récit biblique parle de cette ouverture au niveau du cœur de laquelle a été tirée la femme. Je trouve ça très beau de voir comment cette manière de dire comme homme seul, femme seul, ils ne représentent pas Dieu, ils ne rendent pas présent Dieu, mais comme homme et femme, ils disent quelque chose de Dieu. Je trouve que c'est intéressant de réfléchir dans cette dimension-là, de dire au fond, cette distinction des personnes, homme et femme, renvoie au fond à un mode de ce qu'est l'alliance. L'alliance avec Dieu, c'est précisément la distinction entre nous qui sommes créatures et Dieu qui est créateur. Et on voit à travers l'union de l'homme et de la femme comment c'est important de rendre compte de l'altérité. Quelque part, le modèle homme et femme, c'est le modèle de toute relation, pas seulement matrimoniale, mais bien au-delà. Accueillir que l'autre soit autre que moi. Et au contraire, quand Jésus est confronté à la dureté de cœur des pharisiens, eh bien, il renvoie au fait que c'est leur dureté de cœur qui a fait que Moïse a prescrit de renvoyer sa femme avec un acte de répudiation. Vous le savez peut-être, c'est toujours d'actualité dans le judaïsme, l'acte de répudiation que seul l'homme peut faire. Ça s'appelle en hébreu le guet. Le guet, un époux qui veut se séparer de son épouse, eh bien, établit un guet, la répudie. Mais l'épouse elle-même ne peut pas rétablir le guet, ce qui fait qu'il y a des femmes qui veulent se séparer de leur mari, mais leur mari ne leur donne pas d'autorisation de se séparer, ce qui fait qu'elles-mêmes, elles sont dans une difficulté au niveau de leur religion. Et les enfants qui naîtraient d'une deuxième union sont considérés, on dit en hébreu, mamzer, c'est-à-dire bâtards, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment du peuple élu, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se marier selon leur tradition religieuse dans le judaïsme. Donc on voit la dureté de cœur jusqu'où ça va après dans les générations qui suivent. Je trouve ça intéressant de dire que Jésus dit c'est à cause de la dureté de cœur. Au fond, on n'accueille pas le rythme de l'alliance, on n'accueille pas le mode de l'alliance parce que on veut répudier l'autre, on veut renvoyer l'autre. C'est ce que le pape François appelle la culture du jetable. La culture du jetable qui va bien au-delà, qui concerne la vie matrimoniale malheureusement, mais bien au-delà. Quelqu'un dont je n'accepte pas qu'il soit différent de moi, eh bien je vais le mettre de côté, je vais dire celui-là il ne m'intéresse pas. Celui-là il ne m'intéresse pas parce qu'il ne pense pas comme moi, il n'est pas comme moi, il n'a pas les mêmes convictions, il me sort de ma zone de confort. Et au fond, l'alliance de l'homme et de la femme renvoie au fond à la qualité de nos relations, à la manière d'entrer en relation, et renvoie aussi, dit quelque chose, alors pour le coup, dans notre dimension chrétienne, dit quelque chose de la réalité de Dieu qui est Trinité. J'étais très marqué, quand j'ai fait mes études de théologie, de voir que dans notre vision de Dieu comme Trinité, il y avait une communion des personnes et une distinction des personnes, une différence des personnes, à la fois communion et à la fois distinction. À la fois, le Père est totalement Père parce que son être est paternité, le Fils est filiation, l'Esprit est l'amour du Père et du Fils, mais chacun est absolument distinct de l'autre. Et chacun en communion de l'autre, beaucoup plus que deux personnes, deux amoureux les plus transis seront en communion, beaucoup plus que deux personnes humaines seront distinctes l'une de l'autre. Dans la Trinité, nous avons l'exemple à la fois d'une communion et à la fois d'une distinction. Ce qui nous coule pour nous, c'est d'accueillir l'altérité, d'accueillir celui qui est autre, d'accueillir la différence, d'accueillir cette manière, au fond, qui est propre à l'alliance. Parce que l'alliance, précisément, l'alliance de l'homme et de la femme ne sépare pas ce que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu unit parce que lui-même, en lui-même, il est relation. Mais ça nous coûte d'accueillir ce rythme de l'alliance. Ça nous coûte parce que c'est le péché originel qui est en nous. C'est la difficulté d'être attentif à la parole de Dieu, la difficulté de voir que le chemin de l'autre est autre que moi. Et ce fait qu'il soit autre que moi, ça me sort de ma zone de confort. Moi, ça me fait penser aussi à la tour de Babel. Oui, la tour de Babel, vous connaissez ce récit biblique de la tour de Babel. C'est quoi la tour de Babel? C'est il n'y a plus qu'un chemin pour aller vers Dieu. Il y a un chemin pour aller vers Dieu. Il faut construire une tour qui aille jusqu'au ciel. Et la tradition biblique, la tradition juive plus exactement, dit que cette tour de Babel, elle est séparée en trois tiers. Il y a un tiers qui est enfoui dans la terre, un tiers qui a complètement disparu et un tiers qui est enfoui en chaque homme. Au fond, en chacun d'entre nous, il y a une forme de toute-puissance. De toute-puissance, il y a une forme de vouloir construire une tour de Babel comme moi je veux ce seul chemin pour aller vers Dieu. Et ça me fait penser à un journaliste qui interviewait le pape Benoît XVI, saint homme de Dieu s'il en est, et il lui posait la question, Saint-Père, combien y a-t-il de chemins pour aller vers Dieu? Combien y a-t-il de chemins pour aller vers Dieu? S'attendant que à cet homme à qui on avait fait une mauvaise réputation au début de son pontificat, eh bien disent, il y a le chemin catholique. Et lui, comme fin théologien et fin intellectuel, il y a autant de chemins que de personnes pour aller vers Dieu. Mais ça demande de sortir de nous-mêmes. Ça demande de renoncer à la toute-puissance. Et c'est bien, à travers cette lecture de la création de l'homme et de la femme et du rappel que Jésus fait de ne pas séparer ce que Dieu a uni, de ne pas mettre un terme à l'altérité, de ne pas trouver des portes de sortie pour, au fond, éviter d'être titillé et sortir de notre zone de confort, il dit, il rappelle le commencement. Il rappelle, alors que quand on veut coincer Jésus, on lui demande, est-ce qu'il est permis? Est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est cachère de faire ceci? Est-ce que c'est permis? Et moi, souvent, quand on me pose la question comme prêtre, est-ce que c'est permis de faire ceci, de faire cela? Peut-être on vous pose aussi cette même question sous ce mode-là. Soyez toujours très attentifs. Ne répondez jamais. Ne répondez jamais parce que c'est un piège. Il ne s'agit pas de permis, pas permis ou défendu. Il ne s'agit pas de cachère ou pas cachère. Ce n'est pas du tout la manière chrétienne de voir. Soit on est dans le rythme de l'alliance et donc on accueille l'autre comme autre que moi, soit on est dans le rythme de la répudiation, eh bien j'envoie loin de moi celui qui me dérange. Alors je trouve que c'est un beau test qui nous est donné, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre vous êtes en couple pour discerner l'avenir que vous voulez donner à votre relation amoureuse, mais certains d'autres ici sont déjà mariés, ou simplement en communauté. Cette lecture-là peut tout à fait s'appliquer à la vie consacrée, quelle que soit la forme de vie consacrée, parce que dans la vie consacrée, on apprend à accueillir précisément celui qui n'est pas comme moi, à accueillir celui qui a un autre chemin, d'autres nationalités, d'autres âges, d'autres origines sociales, d'autres rapports à l'intelligence, formation, que sais-je. On est dans la vie consacrée. On est sous le rythme de l'alliance. On est vraiment invité à rentrer dans ce rythme de l'alliance, à ne pas séparer ce que Dieu a uni. Au fond, on est invité à accueillir le mystère de Dieu tel qu'il nous est présenté. Alors, ça nous coûte forcément. Et c'est bien d'identifier chez nous les toutes-puissances. C'est bien d'identifier chez nous ce qui peut être, une manière de vouloir imposer à l'autre notre rythme, de vouloir faire que l'autre soit notre image et ressemblance. Il y a quelque chose de la tour de Babel qui reste en nous. Et c'est important de le souligner, de dire, c'est la place du combat spirituel. Le rythme de l'alliance ne nous est pas familier depuis le péché originel, ou précisément, c'est une rupture d'alliance. Le rythme de l'alliance, ça nous demande un effort. C'est une certaine pénibilité, d'une certaine manière. C'est une certaine manière de sortir de soi-même, de sa zone de confort, pour aller à la rencontre de l'autre. Alors, je trouve ça intéressant de voir que nous est donné, de façon providentielle, ce texte sur la création de l'homme et de la femme, mais aussi sur l'invitation à ne pas séparer, ne pas renoncer à l'altérité, parce que j'entends ça, c'est au-delà de la vie matrimoniale, c'est ne renonce pas à l'altérité, ne renonce pas à celui, ne renvoie pas celui qui vient peut-être te déranger dans ta manière d'envisager événements des personnes, de celui qui te dérange dans ta manière de t'organiser peut-être, celui qui te dérange dans son rapport au temps, qui n'est pas ton rapport au temps. Et je crois que c'est tellement une providentielle d'écouter cette parole-là en ce week-end où un certain nombre de couples sont là pour discerner, mais aussi beaucoup aussi d'entre vous pour vous plonger auprès du Seigneur. Au fond, plus on est proche de Dieu, plus on accepte le chemin de l'autre. C'est un des signes. C'est un signe. À quoi est-ce que je vois que j'accepte, je suis proche du Seigneur ? J'accepte le chemin de l'autre, qui n'est pas mon chemin. Tes chemins ne sont pas nos chemins, tes pensées ne sont pas nos pensées. C'est pas facile. C'est un combat de tous les jours. Et on le sait très bien, l'amour propre meurt 15 minutes après nous. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. L'amour propre meurt 15 minutes après nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas livrer bataille, mes amis. Ce n'est pas pour ça qu'on va se décourager. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas voir l'alliance comme homme et femme, dans l'altérité, dans la différence, comme un vrai modèle de toute relation, évidemment de la relation avec autre, avec Dieu qui est vraiment le tout autre. Parce qu'aussi, on peut vouloir que Dieu soit notre image et ressemblance. Comme dans ces fameux contes et légendes dont je vous parlais, au fond, qui sont la transposition dans des réalités invisibles de ce qui se passe de façon visible. On fait Dieu à notre image et ressemblance. Mais nous avons reçu une révélation. Nous avons reçu la révélation de l'alliance faite avec Moïse. Nous avons reçu la nouvelle alliance. Et Jésus, il remet dans cette dynamique-là, dans cette dynamique de l'alliance. Il nous remet dans ce mouvement, dans ce feu intérieur qui est le feu qui vient de Dieu et qui nous permet de sortir de nous-mêmes, qui nous permet de nous déraciner intérieurement, qui nous permet de découvrir aussi dans l'autre un chemin et dans l'altérité une vraie école de sainteté. C'est une école de sainteté que d'accueillir l'autre comme autre. C'est une école de sainteté, très clairement. Rien que ça, j'accueille ton chemin qui n'est pas mon chemin, j'accueille comme j'accueille Dieu qui n'est pas comme moi, qui est le tout autre. Alors demandons au Seigneur, à travers ces quelques paroles, peut-être de nous remettre face à l'alliance à laquelle nous sommes invités, cette alliance que nous vivrons dans l'éternité, dans le face-à-face, cette alliance que, ici et maintenant, nous sommes invités à vivre dans une forme de tension, le déjà et le pas encore. Déjà nous sommes dans l'alliance, mais pas encore dans la plénitude. Puissions-nous devenir, à travers ce combat intérieur, les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.